Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ces 12e entretiens Ferdinand Buisson, déjà 12e, qui est à la fois le temps qu'on vous propose ce soir d'échanges autour d'une thématique, mais qui est surtout une collection. Ah, pardon. Voilà, un peu de pub. Une collection chez ENS Éditions, créée il y a une dizaine d'années, je ne sais plus exactement. Enfin, je n'étais pas là, donc je ne. 11e année. Voilà. Et qui publie. Donc, on a repris le rythme avec. Enfin, on essaye de retenir le rythme qui était initialement prévu de 2 volumes par an. Et donc, la table ronde, alors qui est presque ronde là, de ce soir, est en fait une étape dans la construction de l'ouvrage, puisqu'ils ont déjà produit un petit texte. Donc, ils ont lu ce que les autres ont pu produire et ce qu'ils vont raconter. Donc, il n'y a pas de découverte de leur côté. Mais c'est le principe aussi de la controverse, du débat, de pouvoir échanger sur des éléments factuels. Et puis chacun derrière, alors ils le savent, mais on va les suivre au plus près, parce qu'il y a des enjeux de calendrier à respecter, vont devoir repartir chacun après ce débat de ce soir chez soi et reprendre le texte qui était une première ébauche pour produire un texte définitif qui sera donc dans la collecte, dans l'ouvrage à venir, on va dire en mai prochain, parce que c'est le rythme. Voilà. Donc en mai dernier, on avait organisé. Non, c'était pas en mai. Si, c'était en mai. En mai dernier, on avait organisé les 11e rencontres Ferdinand Buisson autour de la pauvreté. Et l'ouvrage est sorti du four il y a 2 jours, à peu près. Donc il est tout chaud. Donc le principe des collègues qui avaient écrit dans ce volume avaient participé à une table ronde ici même, il y a 6 mois. Donc c'était un rythme assez dense, y compris pour les auteurs, enfin pour les collègues qui sont là, de suivre la commande qu'on leur passe pour tenir le rythme. Et l'éditeur nous rappelle que c'est aussi important de tenir le rythme. Voilà. Donc nous, on a nos petits exemplaires que l'éditeur a eu la gentillesse de nous donner, à Hélène et moi. Et si vous voulez en avoir un, ce ne sera pas gratuit, j'en suis désolé. Voilà. Mais c'est 10 euros l'opus. On peut alors s'arranger. Pour vous les donner, le ENS Édition vous enverra la facture dans un deuxième temps si on n'a pas moyen de s'arranger en liquide, si je dis les choses correctement à peu près. Donc voilà, donc on va introduire, donc Hélène va introduire la table ronde, peut-être présenter, alors vous voyez, je n'ai pas de notes, donc vous m'excusez si c'est relativement précis ce que je vais dire. Donc Lisa Chan, donc enseignante au micro-lycée d'Amiens, voilà, donc je ne détaille pas, mais c'est à chaque fois pour aborder cette question du bien-être avec des angles et des particularités d'expérience ou d'expertise scientifique. Emmanuel Godot, qui est professeur en santé publique à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Voilà, j'ai bien retenu. Pierre Ronchaille, qui est proviseur de lycée, qui était il y a peu encore pas très loin d'ici, qui est aujourd'hui à Chambéry au lycée Vaugelas. Caroline Velchef, IAIPR de lettres, EVS, établissement et vie scolaire. Ah, enfin, c'était une autre vie. Donc, Académie de Paris. Kevin Dieter, maître de conférence en sociologie à l'Université de Lille. Et Marie-Carmen Garcia, professeur de sociologie également à l'Université Lumière. Lyon 1, pardon, oui, Lyon 1. Ah, voilà, j'ai fourché. Voilà, Hélène, je te laisse la parole. Donc, je suis Régis Guyon, directeur adjoint de l'Institut français d'éducation.
Merci, moi je suis Hélène Buisson-Fenet, donc je suis sociologue dans un laboratoire pas très loin d'ici. Juste pour préciser, le catalogue des 12 opus, enfin des 11 opus, bientôt 12, est accessible en fait sur le site de ENS Éditions et le site de l'IFE par ailleurs. Ils sont vendus en face à la librairie. Et nous, notre grand vœu, le premier s'intitule « L'éducation est-elle politique ?» Et notre grand vœu, c'est évidemment, vu le format de ce genre d'opus, que de le retrouver en salle des profs, par exemple, ou de le voir un petit peu circuler de ci, de là, de manière à pouvoir effectivement permettre de saisir par le bout professionnel et par le bout universitaire ce grand monde qu'est l'éducation. Alors, ce soir, nous vous proposons donc une thématique qui s'intitule « Le bien-être à l'école, de l'élève à l'établissement ». Et en guise d'introduction, je voudrais juste rappeler que c'est dès les travaux, les premiers travaux sociologiques, ceux d'un certain Émile Durkheim dans les années 1920, que les sociologues ont défini l'école non seulement comme un lieu d'apprentissage, mais comme un espace de vie et de socialisation morale même des individus. Bien avant de s'intéresser dans les années 80, on le verra un petit peu après, à son rôle dans le façonnage des subjectivités. Pourtant, la caractéristique française des sciences sociales de l'éducation et des recherches en éducation, c'est s'être longtemps focalisée soit sur la reproduction des inégalités socio-scolaires, depuis la fin des années 50, début des années 60, soit sur la transmission de ce qu'on appelle les savoirs curriculaires, c'est-à-dire la construction, la diffusion, la réception des programmes officiels. Chacune de ces deux dimensions, inégalité scolaire et savoir curriculaire, s'articulant plus ou moins l'une à l'autre. C'est seulement depuis les années 2000 qu'en prenant acte de travaux étrangers qui dataient déjà des années 70, ceux d'un certain Epstein, que les travaux français se sont timidement tournés en sciences de l'éducation vers les dimensions plus affectives, émotionnelles de l'expérience scolaire. Il y a aussi sans doute deux autres facteurs structuraux que cette importation qui explique que ces dimensions deviennent des objets de préoccupation de politique publique aujourd'hui et donc d'investigation scientifique. D'une part, on peut parler avec Joanie, enfin voilà, on peut parler de scolarisation totale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre société implique que les jeunes frottent leur culotte en moyenne près de 19 ans à l'école, ce qui fait de l'école, la socialisation scolaire à la française, l'une des plus importantes en termes de volume d'heures passées à l'école de l'OCDE. Et puis un deuxième facteur auquel on s'intéresse depuis l'année 2020, c'est que la génération des 12-25 ans partage le fait aujourd'hui d'avoir vécu une pandémie mondiale et d'être qui plus est témoin d'une crise écologique majeure et montre, il suffit d'ouvrir la radio tous les matins, des signes inquiétants de santé mentale qu'on mesure comme défaillante. L'étude pionnière d'un certain Denis Meuret et Jean-François, je crois, Marie Vin, des années 97-98, est la première donc à définir le bien-être des élèves au collège avec trois dimensions: sentiment de réussite à l'école, le plaisir pris à la fréquentation de l'établissement et enfin le statut que les élèves pensent leur être attribué par leur père, PAIRS, ou par les adultes autour d'eux. Mais les travaux les plus récents sur la question s'inscrivent dans une veine délibérément critique à l'égard de cette notion de bien-être, en posant notamment la question de l'injonction au bien-être et au développement personnel, et en questionnant en particulier la normativité de PISA, des études PISA, qui prétendent mesurer la satisfaction des élèves, notion à la fois floue et légèrement psychologisante, dont on n'a pas beaucoup l'habitude en sociologie de l'éducation classique en France. Ces travaux-là, plutôt critiques, rejoignent une suspicion sociologique plus large et classique qui voit dans la thématique du bonheur un sujet au moins un peu sérieux, au plus naïf, généralement, même si quelques sociologues se sont intéressés à l'épanouissement personnel en tant que valeur, notamment dans le travail, Baudelot en particulier. L'étude des problèmes sociaux, qui est quand même assez centrale dans la sociologie à la française, va privilégier l'analyse du mal-être et pas celle du bien-être. J'en veux pour preuve un article, par exemple, de Julien Caron, un article historique dans la revue des études en éducation de janvier 2025, où il va s'intéresser à la longue histoire du mal-être à l'école depuis le 19e. Alors, il se trouve qu'on a pourtant observé de ci, de là, que les contextes scolaires permettaient de comprendre non seulement les aspirations éducatives des parents et leur ressenti d'insécurité scolaire, par ailleurs, non seulement l'évaluation subjective de ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail des enseignants, mais aussi les sentiments de compétence des jeunes et leur perception des discriminations. On a aussi travaillé à distinguer, c'est les travaux de Barbara Fouquet-Chopra pour la Suisse, On a travaillé à distinguer la notion de bien-être scolaire de celle de climat scolaire. Le premier, c'est l'évaluation subjective de la qualité de vie dans le contexte scolaire, nous dit Barbara Fouquet-Choprad. Le second, ça renvoie à l'ensemble des membres de la communauté éducative et il va reposer ce climat scolaire sur plusieurs dimensions. La sécurité dans l'établissement, le relationnel et notamment l'expression du respect, de la dignité mutuelle. L'éducatif, les apprentissages ont un sens et les enseignants sont censés montrer à quoi sert l'apprentissage. La justice, avec l'idée qu'il y a des autorités légitimes qui disent l'équité et qui disent la justice dans les établissements. Et enfin, l'appartenance, c'est-à-dire le fait que des sous-groupes juvéniles vont avoir un sentiment d'appartenance qui leur permet de s'identifier à leur père et aux rôles qui sont les leurs dans l'établissement. Par ailleurs, la question de l'épanouissement personnel est devenue une préoccupation des systèmes éducatifs à l'échelon international. Je vous citais PISA tout à l'heure. Elle est d'autant plus vive dans le cas français qu'en comparaison, les élèves y sont de plus en plus nombreux à considérer l'école comme une perte de temps, qu'ils y ont moins confiance en moyenne que leurs co-religionnaires étrangers, et qu'ils éprouvent une plus forte anxiété au regard des apprentissages, et notamment à l'égard des mathématiques. Alors, malgré ou grâce à l'ambiguïté de ce terme de bien-être scolaire, nos questions ce soir, c'est est-ce que ce bien-être peut être un objectif de politique scolaire? Est-ce qu'on peut penser des établissements qui se préoccupent davantage du climat scolaire que du bien-être? Quelle est la balance ou la valence entre les deux? Est-ce que la matérialité des lieux, l'accessibilité, la taille, la composition des classes, comment tous ces facteurs participent soit au bien-être subjectif, soit au climat scolaire? Et à l'inverse, quels sont les contextes qui sont susceptibles de grever le climat des établissements et comment les directions, en particulier, peuvent-elles y remédier? Et enfin, quelle est la place de l'offre sanitaire, de l'accompagnement à la santé, dans le sentiment de bien-être ou de bien-vivre à l'école à cet égard?
Et la première, donc, on a besoin de définition quelque part, en tout cas, ou se mettre d'accord, ou de commencer par ce qui relève de la définition autour du bien-être, puisque Hélène a utilisé d'autres approches, d'autres cadres, notamment le climat scolaire. Alors, la première question est pour Caroline Welchef. Bien-être, climat scolaire, est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que c'est la même approche? Est-ce que c'est le même objet? Ou est-ce que l'un peut servir à l'autre, mais pas forcément?
Bonsoir. Alors, question évidemment compliquée, mais il n'en reste pas moins vrai que dans la présentation qui a été faite, de mon point de vue, encore une fois, d'actrice de terrain, c'est que la notion de bien-être, elle renvoie éminemment à des définitions successives qui ont été posées par l'OMS, reprise ensuite par l'OCDE et retravaillée pour justement irriguer les politiques publiques en éducation, et puis plus récemment en France, donc dans le cadre de documents qui ont été publiés notamment par Santé publique France autour effectivement de ces questions. La grande difficulté, c'est évidemment que on est à la croisée des chemins entre la question de la santé et la question de l'éducation. Et donc, de mon point de vue, j'ai une gêne en tant qu'actrice historique, on va dire, sur ces questions, parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille sur la question de la prévention des violences à l'école, et donc, voilà, à peu près, et du climat scolaire. Et donc, ce qui me gêne fondamentalement, c'est que quand les acteurs de santé définissent le bien-être, ils sont dans leur rôle. Pourquoi ? Parce que quand on est médecin, on s'adresse à un patient. Moi, je m'intéresse à un environnement scolaire, c'est-à-dire, donc, c'est toujours pareil, la question du contexte, de mon point de vue, elle est essentielle. Quand on commence à contextualiser la question du bien-être, on doit dépasser la question de l'individu. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on, toute la journée, nos collègues, là, chefs d'établissement, ils travaillent sur des collectifs. Collectifs adultes, collectifs élèves, avec des groupes, des sous-groupes sociaux dont vous avez parlé. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, je suis extrêmement gênée quand le dernier document de Santé publique France concernant notamment la question du développement des compétences psychosociales ne contient pas, vous m'entendez, ne contient pas une seule fois le mot collectif. Et qu'aucun travail n'est fait, parce que Santé publique France est à la rigueur dans son rôle, mais qu'aucun travail n'est fait à l'Éducation nationale pour recontextualiser ce document et lui donner une épaisseur par rapport à notre travail en tant qu'éducateur, puisque notre mission à l'école, et vous l'avez déjà dit, mais c'est effectivement de socialiser les élèves dans une, encore une fois, société extrêmement fracturée. Et donc l'école a d'autant plus, je dirais, cette mission, de mon point de vue, première. Donc, pourquoi ? Alors, je ne cherche pas à opposer bien-être et climat scolaire, mais j'aimerais qu'on assume une certaine humilité, une certaine modestie sur ces questions, et que, effectivement, en l'état de la recherche aujourd'hui, je ne trouve pas de travaux qui travaillent sur la question du bien-être collectif. Je ne trouve pas beaucoup de travaux qui travaillent sur, vous voyez, la qualité des interactions et des interrelations entre les différents groupes sociaux qui composent l'école. C'est pour ça que prudemment, parce que moi j'aime protéger les enseignants, les chefs d'établissement, notre école, je pense que prudemment, cette notion effectivement de climat scolaire, elle est intéressante, elle est porteuse, elle n'exclut pas la notion de bien-être, mais au contraire, elle permet de lui donner un cadre qui correspond à nos missions. Donc je voulais juste rappeler la définition de Jonathan Cohen de 2013, donc qui est l'un des chercheurs à partir desquels nous avons fait une méta-analyse avec Éric de Barbieux. Donc en 2011, nous avons produit pour le ministère, nous étions tout un groupe avec des chercheurs et des praticiens, nous avons tout produit une grosse méta-analyse sur justement la question de la définition du climat scolaire dans laquelle nous avions abordé la question du bien-être. Et donc cette définition, elle nous donne la chose suivante. Cette notion de climat scolaire repose sur une expérience subjective de la vie scolaire qui prend en compte non pas l'individu, mais l'école en tant que groupe large et les différents groupes sociaux au sein et autour de l'école. Alors, de mon point de vue, si vous voulez, ça, c'est absolument essentiel. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a essayé de renseigner la chose. Donc, on a fait des enquêtes nationales de victimation et de climat scolaire pour comprendre comment ça se passait pour de vrai entre les groupes sociaux qui composent l'école et les sous-sous-sous-groupes. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu deux choses essentielles de mon point de vue dont j'avais envie de parler ce soir. C'était juste pour exemplifier mon propos. Premier exemple, c'est que ce qui est surdéterminant sur la qualité donc du bien-être de tout le monde, donc collectif, c'est la cohérence et la cohésion des équipes. Quand les adultes dysfonctionnent, le niveau de violence entre élèves augmente. C'est comme une sorte, si vous voulez, de vase communicant. Alors, vous allez me dire, c'était prévisible, peut-être, mais c'est toujours mieux en le disant et c'est toujours mieux en le prouvant. Donc, on a des chiffres très exacts là-dessus. Et donc, moi, j'administre en plus, dans mon rôle, des enquêtes locales de climat scolaire. Je peux vous garantir que systématiquement, c'est la même chose. Et qu'au contraire, évidemment, des établissements où les élèves sont contenus, d'accord, où effectivement le cadre est bien posé, ce sont des établissements où effectivement vous avez des équipes très cohésives, très cohérentes. Et donc, effectivement, les élèves se sentent à la fois soutenus, cadrés et effectivement vectorisés, je dirais, vers leurs apprentissages. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important à souligner. Et donc, effectivement, à l'inverse, deuxième cas de figure, deuxième exemple, tous les élèves qui ont effectivement un vécu scolaire, une expérience scolaire marquée par la violence, notamment la violence répétitive, je n'ose même plus prononcer le mot harcèlement tellement il a été galvaudé et marchandisé, hein, puisque donc n'oubliez pas non plus que derrière toutes ces questions, il y a ce problème quand même. C'est pour ça que je parle quand même de la relation de l'école avec son, cette société qui effectivement essaye de, entre guillemets, lui vendre du bien-être ou des solutions toutes faites sur ces questions de harcèlement. Donc je fais le pas de côté en parlant de violences répétées pour ces jeunes. Et ces jeunes, évidemment, ont une vision extrêmement dégradée du climat scolaire, parce qu'effectivement, leur vision du climat scolaire, vous voyez ce que je veux dire, a été entachée. Et donc, c'est là où, c'est pourquoi, avec De Barbieux à l'époque, on avait souhaité avoir cette entrée. Mais le point d'aboutissement, ça n'était évidemment pas ça. Le point d'aboutissement, c'était de travailler sur cette systémie, d'accord, sur les différents groupes qui composent et sous-groupes qui composent l'école. Et Dieu sait si cette systémie, elle, est intéressante quand on pose actuellement la question des relations filles-garçons. Je voulais juste en terminer là. Oui.
Merci. Alors, il y avait peut-être plusieurs choses sur lesquelles, Kevin, vous souhaitez réagir peut-être, notamment sur les questions de travaux, de mobilisation de travaux.
Sans les travaux, après, on ne se place pas aussi tout à fait au même niveau. Mais effectivement, quand on a, dans le dernier bouquin que Claude Martin et moi avons dirigé sur le bien-être des enfants à l'école, il y a toute une partie de la littérature anglo-saxonne qui effectivement a montré l'importance des relations entre adultes entre eux, et entre eux, et surtout aussi Kuchera avait montré les relations avec les enfants. Mais il s'avère aussi que celle-ci était dépendante aussi du climat scolaire, comme on disait, puisque en fait il fallait aussi que les adultes s'entendent, agissent en commun pour que ce soit que ça ait un effet sur les enfants. Après aussi ce que d'autres collègues britanniques, mais qui sont un peu plus qui ont fait leurs travaux, je dirais, à partir plutôt de 2020, qui sont un peu plus récents et qui ont en fait déplacé non pas la question, mais ils ont déplacé le regard, et au lieu de questionner les adultes, ils sont allés voir les enfants. Au lieu de s'embêter à se dire quelle est la définition ou comment définir concrètement ce que c'est le bien-être, allons voir les enfants et allons leur demander de savoir. Donc, nous, c'était des enfants, oui, c'est pas lycée. Quand je dis nous avec Claude, on avait plutôt envisagé et invité des collègues qui travaillent avec des enfants d'élémentaire, donc même pas les maternelles, vraiment les 6-11, pour savoir en fait qu'est-ce qui, à leurs yeux, participait ou qu'est-ce qu'il fallait pour qu'ils soient contents de venir à l'école, qu'ils s'y sentent bien. Et il y avait des choses assez intéressantes parce que ça permettait d'élargir un petit peu la focale, parce que généralement, quand on lit les différentes recherches sur le sujet, il y a toujours en fait une triple opposition dans les recherches. C'est soit on regarde les adultes, soit on regarde les enfants, soit on s'intéresse au bien-être subjectif, soit au bien-être objectif, ou soit on fait ensuite les causes internes à l'enfant, donc psychologiques, et soit causes externes. Et on se disait que le meilleur moyen de faire le pas de côté, c'était d'aller voir les enfants et de regarder les relations qu'ils avaient avec les autres. Et en fait, ce qui était, moi, que je trouvais assez intéressant, c'est que là, en fait, on voit que l'école participe, mais en fait, au niveau de bien-être, mais il y a aussi le lien avec les familles, quoi. Et la manière dont aussi leurs familles sont intégrées avec eux, s'ils sont représentés. C'était notamment le cas des enfants de classe populaire, où en fait, on voyait que pour eux, ce que disaient les enfants, après, c'était leur propos de dire qu'ils se sentaient un petit peu dévalorisés par les remarques qu'ils pouvaient avoir, ou en tout cas moins reconnus à cause des mauvaises notes, etc. Et que quand ça leur faisait, en fait, quand ils se sentaient valorisés, c'était lorsqu'ils avaient l'occasion de présenter d'autres, leur culture à eux, ce qu'ils faisaient. Et il y avait donc deux chercheurs et chercheuses qui ont fait la fin, qui parlaient de parité de participation et qui disaient en fait, ils utilisaient le terme de reconnaissance du côté des enfants, et c'était ça qui agissait le plus. Mais la reconnaissance n'était pas d'un point de vue scolaire, c'était pas que sur le métier d'élève, on va dire, c'était de manière plus générale le métier d'enfant. Et ce qui nous a, peut-être je vais terminer sur ça parce que c'était une de nos résultats, de nos résultats majeurs avec le collectif de chercheurs, c'était de montrer qu'en fait la constellation des facteurs qui participe au bien-être ou au mal-être des enfants n'est pas le même en fonction de s'ils sont des garçons, si ce sont des filles, s'ils viennent de milieux supérieurs, s'ils viennent de classes populaires ou de classes moyennes. Et on voit aussi, parce qu'ils n'ont pas tous et toutes le même rapport à l'école, donc les jugements des enseignants n'ont pas le même poids, le jugement des pères peut être plus important dans certains cas. Et en fait, c'était ça qui nous intéressait beaucoup en train de dire, bah, un peu comme vous disiez aussi avant, c'est-à-dire d'avoir une vision un peu plus multidimensionnelle de ce qu'est l'enfant, de ne pas le résumer à un métier d'élève qui soit là, et de regarder aussi, de faire ce pas de côté, d'aller leur demander et de voir aussi à leur hauteur qu'est-ce qui, en fait, on parlait aussi d'injustice, là je mène une enquête qui s'appelle C'est pas juste, et aller leur demander, bah, c'est assez intéressant parce que pour eux, là on n'arrête pas d'apprendre aux enseignants la différenciation, c'est bien, la différenciation pédagogique pour prendre, mais pour les enfants, parfois il y a une sorte d'injustice je dis pas que c'est bien, enfin, c'est juste ça joue aussi, et il y a tout un travail à faire avec ça, et notamment quand certains ont le droit de faire des choses alors que d'autres non, et que ça leur semble légitime en fait, et parce que ils ont montré qu'aussi le sentiment de légitimité permettait de mieux, après, on revient sur les catégories classiques, mais de s'intégrer, de participer à l'école et participer en tant que père, en fait, ça c'est une notion de la philosophe Fraser, mais qui disait la parité de participation, c'est ce qui permet en fait de faire qu'on soit vraiment entre égaux, quoi.
Et donc le sentiment d'appartenance quelque part qui en découle. Emmanuel Godot, dans la proposition que vous nous aviez adressée, on retrouve ce que Hélène disait au début sur des catégories d'espace où se jouent un certain nombre de choses, et vous êtes intéressé dans le texte que vous avez envoyé aux toilettes des écoles et des établissements scolaires, qui sont des lieux à la fois de refuge, mais aussi des lieux où il y a des questions de santé qui se posent, voilà, mais aussi des endroits où une certaine socialisation se développe, et je ne suis pas en train de juger la nature de cette socialisation, mais qui existe quand même par ailleurs.
Merci. Oui, en effet... Donc, je me suis au départ, donc je suis médecin scolaire et je forme les médecins de l'éducation nationale à l'EHESP. Et donc, ça fait très longtemps, même quand j'étais médecin conseiller directeur, que je m'intéresse à cette question des toilettes en tant qu'un endroit dédié au respect d'un besoin fondamental, d'un droit fondamental des élèves, qui est celui de faire pipi et caca quand ils en ont envie. Parce que ça paraît illégitime et incroyable qu'on prive des personnes de ce droit qui paraît quand même assez basique. Donc depuis longtemps, ça me tracasse. Quand je suis arrivée à l'EHESP, j'ai, pour X raisons, brassé des mémoires qui avaient été faits par les médecins depuis plus de 40 ans. Et j'en ai trouvé 4 sur les toilettes scolaires. Bon, j'étais déjà un peu animée par le sujet. Et qui faisaient des constats similaires au cours des 40 ans, qui était les élèves, ils ne veulent pas aller aux toilettes, ils trouvent que c'est dégueulasse, que ça pue, machin truc. Donc, ils ont des stratégies qui passent par les parents à base de on retire les élèves de la cantine pour qu'ils puissent rentrer, faire pipi et caca à la maison le midi. On fait des plaintes aux maires, aux chefs d'établissement, etc., à l'égard des toilettes. Et on en vient même à faire des certificats médicaux pour dire que l'enfant X ou Y doit absolument aller aux toilettes à l'infirmerie, parce que sinon, ce n'est pas possible. Donc, une question pointée, mais jamais résolue, et toujours pointée de la même manière. Donc là, je me suis dit, ce n'est pas possible, on va creuser la situation. J'ai mis, à l'époque, plus de 20 médecins scolaires que j'avais dans ma promotion au travail sur le sujet. Ils sont dans toute la France, ils ont interrogé des parents, des enfants, des enseignants, des architectes, des gens qui nettoient les toilettes, partout. Et ils ont fait, grosse surprise, exactement les mêmes constats. Ça pue, on n'y va pas, on a peur d'y aller, on a mal au ventre, etc. Parce que je ne vais pas faire mon médecin, mais vous savez que ne pas aller faire pipi, un enfant et un adolescent, il doit aller entre 3 et 8 fois par jour faire pipi, normalement. Il y a des enfants, un tiers, et j'ai fait une revue de la littérature internationale, qui ne vont pas jamais aux toilettes dans la journée scolaire. Donc, c'est quand même délétère pour leur santé, donc infection urinaire, mal au ventre, constipation. Et puis,
stress, et puis ben, problématique vis-à-vis des apprentissages. Comment vous pouvez être dans l'après-midi réceptif à ce que l'enseignant vous dit si depuis le matin vous n'êtes pas allé faire pipi et que ben, vous êtes, c'est pas possible que ça vous tracasse pas. Donc qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils ont des stratégies. Ils y vont le matin avant de partir, ils se jettent aux toilettes quand ils rentrent à la maison, ils se privent de boire pour ne pas avoir envie d'aller, etc. etc. Donc, c'est juste pas possible. Donc, j'ai déposé un projet de recherche sur le sujet en lien avec Omar Zana, que peut-être vous connaissez, qui a travaillé beaucoup sur le corps à l'école et sur l'empathie. Et donc, on a déposé ce projet de recherche pour, dans deux établissements de Bretagne, un peu déplier cette question des toilettes. On a fait des questionnaires, on a fait des observations, et puis on a fait des ateliers participatifs avec des élèves. Les questionnaires nous ont montré exactement la même chose que ce que tout le monde avait déjà montré. Les élèves n'y vont pas et ils se plaignent de ces salles, il n'y a pas du savon, y a pas de, les murs ne vont pas du sol au plafond, les verrous ne marchent pas, etc. Donc on n'a pas envie d'y aller. Et puis, on a observé comment ils y allaient et qu'est-ce qui se passait. Et là, grosse surprise, les élèves y vont beaucoup dans les toilettes. Et notamment les filles, elles y vont beaucoup et elles y vont en troupe et elles y restent longtemps. Pourtant, dans les questionnaires, les filles, elles vont peu faire pipi, beaucoup moins que les garçons aux toilettes. Ben, qu'est-ce qu'elles y font? Eh ben, elles socialisent en fait. Elles rencontrent leurs copines. Et si là, je faisais un petit sondage express, rappelez-vous de ce que vous avez fait quand vous étiez aux toilettes scolaires, quand vous étiez petit. Vous allez me dire, oh là là, moi je ne suis jamais allée, c'est dégueulasse. Jamais, jamais. Il y a toujours des gens qui disent ça. Ou bien, oh ça pue, c'est affreux, j'y allais jamais. Ou bien, et ça peut être les mêmes d'ailleurs, ah non mais j'allais toujours avec mes copines, on jouait au tarot, c'était là qu'on avait chaud.
Et c'est les filles, hein, ce n'est pas les garçons.
C'est surtout les filles. Les garçons, ils y vont vite. C'est très mauvais pour un garçon de rester trop longtemps aux toilettes, parce que si on y reste longtemps, ça voudrait dire qu'on y a fait caca, et c'est pas bon d'y faire caca. C'est pas bon, c'est ça. Donc, on y va vite, parce qu'on va aux urinoirs, et puis, si on y va, par moment, pour se bagarrer, etc. Il s'y joue pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est une construction genrée qui s'opère dans ces toilettes, à l'abri du regard des adultes et à l'abri de l'autre sexe. Et donc, je vais finir là pour cette première prise de parole. Donc, nous, en tant qu'adultes dans les établissements scolaires, on a à réfléchir à partir de ce lieu qui est tout petit dans la place qu'il occupe dans un établissement scolaire par rapport au nombre de salles de classe, etc. Et qui, pourtant, est un endroit très important pour les élèves, auquel ils pensent beaucoup et sur lequel ils ont beaucoup de choses à dire, sur lequel les adultes ont une espèce de trou au départ, de tabou, de déni. Et puis, quand on creuse, parce qu'on a fait des entretiens avec des adultes, finalement, ils ont des trucs à dire. Mais en premier, on n'a rien à dire. Et puis après, on se défausse en disant « Ah non, mais les toilettes, oui, non, mais c'est pas moi. C'est pas moi, chef d'établissement, parce qu'en fait, si on est dans le lycée, c'est la région qui doit réparer. » Les gens qui nettoient, ils disent « Ah non, mais moi, en fait... » Donc, c'est jamais de la responsabilité, on ne va pas dire la faute, de la personne, non plus des élèves, hein, parce que c'est toujours l'autre. Et finalement, c'est un endroit sur lequel rien ne se passe, peut-être c'est pour ça, parce qu'il y a trop de partenaires et qu'il y a trop d'enjeux qui s'y jouent plus ou moins secrètement.
Beau sujet pour un chef d'établissement, je n'ai pas de doute là-dessus, parce que ça touche ce que disait un peu Caroline tout à l'heure sur la cohésion, l'objet où, finalement, qui concerne finalement tout le monde, les élèves, puisque les adultes ont aussi ces problématiques-là. Ça se gère vraiment autrement, évidemment. Mais voilà, c'est un objet intéressant pour un chef d'établissement, je pose la question, évidemment, hein, pour aborder cette question du bien-être. Alors, il y a peut-être d'autres espaces où les choses se jouent, évidemment, la cantine, la cour, les couloirs, tous les espaces qui ne sont pas la classe.
Bonsoir. Alors, oui, je n'ai pas à faire un focus sur les toilettes. cette question des espaces dans un établissement scolaire, elle fait partie des points fondamentaux de ce que chaque usager vit quand il est à l'école, au lycée ou au collège. Le chef d'établissement, il n'a pas la maîtrise de ça. Alors, je suis un peu malhonnête en disant ça, parce que moi, j'ai vécu une expérience extraordinaire au lycée Mérieux. C'est un lycée qui a ouvert il y a 5 ans. bientôt 5 ans et qui justement a été pensé par rapport avec une entrée sur le bâti scolaire, avec comme point central la qualité de vie au travail et la qualité de vie aux élèves, des élèves. Et donc du coup, tout s'est articulé autour de ça. Donc quelque part, en tant que chef d'établissement, d'ailleurs la racine latine de proviseur, c'est pourvoir. Moi, j'ai considéré que travaillant dans cet établissement-là, j'étais là pour pourvoir, en sachant quand même que le gros a été fait au départ. Voilà. Puisque, un, les espaces avaient été pensés par rapport à un projet pédagogique, que deux, les enseignants, et au-delà des enseignants, les agents région, l'adjoint gestionnaire, secrétaire général, avaient fait le choix de venir dans cet établissement et pour, parce qu'ils adhéraient au projet. Il n'y avait que les élèves qui n'avaient pas le choix. Ils ont été obligés de venir dans ce lycée.
Oui, parce qu'il y avait quand même une carte.
Oui, et là, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça n'aurait pas été très intéressant. Pardon. Et donc voilà, en revanche, ce n'est pas le quotidien de ce que je vis actuellement, de ce que d'autres collègues vivent, et souvent on est dépendant. Donc on parlait du collectif, on parlait de la mission première d'un chef d'établissement, c'est la sécurité des biens et des personnes, et ça, on ne le maîtrise pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand. Le chef d'établissement, au-delà de ses responsabilités, qui lui sont propres, hein, qui sont voilà, liées à sa fonction, c'est qu'il s'inscrit dans ce collectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des établissements où les lieux ne sont pas propices a priori, mais s'il y a une réflexion, s'il y a une envie à la fois des adultes et des élèves, et l'idéal, quand c'est une réflexion collective, même un établissement qui, a priori, quand on rentre dedans, n'est pas agréable, peut l'être pour les usagers, parce qu'il y a eu tout un travail, un processus collectif de réflexion qui a été mis en place. Et là, le chef d'établissement il s'inscrit lui aussi dans ce collectif. Ce n'est pas lui qui peut décider que c'est bien, ce n'est pas bien, vous n'avez pas le droit de ne pas être bien dans ce lycée parce que tout est fait pour que vous soyez bien. Non, bien évidemment que non. Donc, c'est une alchimie extrêmement complexe qu'on connaît tous, hein, que vous connaissez aussi. Mais clairement, et puis aussi dire, et vraiment l'expérience que j'ai vécue à Mérieux et l'aventure, quand on a une belle enveloppe et un bon contenu, si les acteurs ne s'en emparent pas et s'ils n'ont pas envie de la faire vivre, bah, ça ne fonctionne pas non plus. Et les élèves, encore une fois, quand ils arrivent, ils ne sont pas, contrairement à peut-être tout. Je regarde M. Poté parce que c'est un collègue avec qui j'ai bossé. Nous, on avait envie de bosser dans ce lycée. Mais les élèves, encore une fois, ils n'avaient pas le choix. Donc, on ne peut pas leur imposer de leur dire bah, vous avez une chance inouïe, c'est super, il faut que vous soyez. Voilà, profitez. Donc, ça, voilà, c'est vraiment cette réflexion collective. Et puis, une chose qui a été dite aussi, qui me paraît très fondamentale, c'est-à-dire que même si c'est souvent décrié, on dit que le chef d'établissement est le premier. Responsable pédagogique, avec plein d'entrées différentes. Mais clairement, si le lieu est magnifique, si tout est fait pour que tout fonctionne bien, mais que les élèves s'ennuient, qu'il n'y a pas d'interaction, qu'il n'y a pas de projet, bah, tout ça, ça ne sert à rien. Voilà, clairement. Donc voilà, juste pour...
Alors, peut-être qu'au micro-lycée, cette question du collectif adulte... alors j'aurais voulu introduire un mot qu'on n'a pas utilisé pour l'instant, mais que vous utilisez dans le texte, c'est le mot de vulnérabilité. Voilà, parce que les élèves qui arrivent au micro-lycée ben, ont eu un parcours où un certain nombre de vulnérables, enfin, qui sont en situation de vulnérabilité d'une certaine manière.
Exactement. Alors,
peut-être présenter ce qu'est un micro-lycée.
Oui, je vais le faire. Alors bonsoir, je suis enseignante dans une structure de retour à l'école, donc une SRE, qui est un micro-lycée à Amiens. Ce micro-lycée a une dizaine d'années et il répond à la problématique du décrochage scolaire. Il y a trois niveaux d'enseignement, donc ce qu'on appelle une rescolarisation qui correspond à un niveau seconde, une première et une terminale. Donc il y a trois objectifs scolaires. Qui sont rescolarisés, orientés et diplômés. Et les élèves ont tous au moins deux points communs, d'être décrocheurs scolaires et d'être en situation de vulnérabilité. Alors cette notion de vulnérabilité, elle est assez protéiforme. En tout cas, dans notre équipe à Amiens, c'est très compliqué de la définir. D'abord, on parle de soit la vulnérabilité ou les vulnérabilités. on ne s'accorde pas toujours sur le terme. Moi, pour ma part, je préfère les vulnérabilités ou en tout cas les situations de vulnérabilité, puisque ça permet de travailler avec les élèves sur je suis en situation de vulnérabilité due à mon handicap, due à ma santé mentale, à des troubles autistiques, à du harcèlement, à de la violence intrafamiliale. En tout cas, on essaie de plutôt travailler autour de situations. Donc le micro-lycée est fortement imprégné par cette notion, parce qu'elle touche les élèves, bien sûr, mais aussi parce qu'elle touche parfois les enseignants, nos collègues. L'année dernière, nous avons eu malheureusement une élève qui est décédée, donc à la suite d'un suicide, en cours d'année scolaire, en fin d'année scolaire. Et pour une fois, les rôles se sont presque inversés, c'est-à-dire que la prise en charge de la vulnérabilité n'était plus des enseignants aux élèves, mais en fait des élèves aux enseignants, ou en tout cas, les élèves nous ont dit « Ah, en fait, vous aussi, parfois, vous êtes vulnérables comme nous. » Et bien sûr, bah, évidemment, puisqu'on est humain, et ça a été aussi une expérience très, très malheureuse, mais on s'est presque tous accordés sur « On vit cette situation de vulnérabilité, en fait, ensemble, au même moment. » On essaie quand même de repérer tout au long de l'année, alors dès les entretiens, puisque les micro-lycéens en fait, passent une phase d'entretien, sont des élèves qui veulent intégrer le micro-lycée, nous n'allons pas les chercher, c'est vraiment leur, comment dire, c'est leur motivation en fait, qui est engagée. Donc on essaie de s'appuyer sur deux points, l'observation des élèves et la vigilance accrue de ce qu'on appelle un petit peu les signaux faibles de mal-être. Parfois, ils sont forts. Hein. Un élève qui se scarifie justement dans les toilettes, puisque ça nous arrive assez régulièrement, c'est un signal fort. Mais parfois, les signaux sont très faibles et on doit être toujours vigilant dès le matin, quand on ouvre les portes du micro-lycée à 8 heures, d'être vigilant sur, par exemple, le corps, la posture de l'élève, dire bonjour, comment ça va. Parfois, on repère un corps recroquevillé ou pas de réponse. Ou parfois un sourire très gênant ou un sourire qui habituellement n'existe pas. Donc on essaie de s'interroger. Bien entendu, on travaille beaucoup en équipe, donc on peut quand même se passer le mot et essayer de travailler de concert pour un peu observer justement ces attitudes. Après, il y a bien sûr, on essaie d'observer l'environnement social, familial de l'élève et bien entendu la dimension psychologique, puisque 80% des élèves accueillis au micro-lycée ont des problèmes de santé mentale. Donc, on observe le corps et aussi, on écoute la parole. Alors ça passe par quelque chose qui est très, très bien, très bien ancré depuis 10 ans, qui est en fait le tutorat. Tous les élèves du micro-lycée ont un tuteur, soit enseignant, soit AESH, puisqu'on a quand même 3 AESH à temps complet dans nos classes. Pendant ce temps de tutorat, en fait, au début, on crée un lien de confiance. Le tutorat se fait à n'importe quel moment de la journée, de la semaine, dans n'importe quel endroit du lycée, couloir, entre deux portes, salle de vie, peu importe. Devant la porte des toilettes aussi, ça arrive. Et ce climat de confiance, en fait, va permettre la confidence. Et dans la confidence, on essaie, en fait, de trouver les signaux faibles pour détecter les situations de vulnérabilité. Alors, bien sûr, les situations de vulnérabilité, parfois, on les connaît par les dossiers. Mais on ne lit pas toujours le dossier ou parfois, en fait, dans le dossier peut être creux. Un élève peut aussi ne pas vouloir dire en entretien quelle est réellement sa difficulté et son problème. Et ça, en fait, on le découvre au fur et à mesure de l'année. Quand on répond aux vulnérabilités, si on peut donner une réponse, ce n'est pas toujours évident et parfois, on n'a pas de baguette magique non plus. On n'utilise pas le climat scolaire, on n'a pas de politique de bien-être, on n'est pas un service d'infirmerie non plus. Même si on communique un petit peu avec l'infirmerie, ce n'est pas notre cœur de métier. Par contre, on utilise deux ressources qui sont la coopération, donc coopération, coéducation, et les alliances éducatives. Alors la coopération et la coéducation, c'est essentiellement avec les parents. Chaque semaine, il y a un bilan hebdomadaire sur l'élève. Pour toutes les classes, pour tous les élèves. Parfois, le bilan est quotidien. Quand un élève est vraiment en souffrance et en situation de vulnérabilité extrêmement forte, on envoie un SMS aux parents Alors, nous ne passons pas par Pronote ni l'ENT, puisque ça ne fonctionne pas avec nos élèves, en fait. Je suis aussi enseignante dans un établissement classique, hein, qui est juste à côté, et je passe par l'ENT et par Pronote. Donc, je m'ajuste vraiment en fonction de l'établissement. Et puis, nous avons aussi donc, les alliances éducatives. Alors, les alliances éducatives, la coopération, c'est vraiment dans l'établissement, la coéducation aussi. Les alliances éducatives, c'est à l'extérieur de l'établissement. Donc, on essaie de pousser les murs de l'établissement pour s'entourer de partenaires. Alors, je vais donner seulement deux exemples, on en a pas mal. Le Safran, une structure culturelle qui nous accompagne et géographiquement, elle est assez proche du micro-lycée, donc on peut y aller à pied. On peut y aller quand on veut, voir ce que l'on veut, des expositions. Il y a aussi une bibliothèque insérée dans la structure scolaire. On y mène des projets tout au long de l'année. Et puis, l'année dernière, le Safran a proposé de nous aider parce qu'on était en difficulté suite à l'événement qui s'était passé, qui avait été très traumatisant et pour les élèves et pour l'équipe. Ils nous ont proposé, par exemple, de nous mettre à disposition une salle qui s'appelle la Verrière pour réviser au mois de juin, pour couper en fait, de l'établissement parce qu'on avait vraiment besoin de sortir. L'événement s'était passé en avril. Donc, pour réviser le bac, on est allés tous s'installer une semaine à la Verrière avec nos élèves, les enseignants, les AESH. Et on a planifié des sessions de révision. En même temps, on pouvait aller faire du yoga à la bibliothèque puisqu'il y avait une activité yoga. Je sais qu'il y a une intervention sur le yoga. Aller voir une exposition, prendre l'air dehors, aller lire un livre et ensuite revenir à des révisions classiques avec les enseignants. Et puis, on a un deuxième partenaire qui est le CAP. Donc, c'est un centre adolescent post-crise, qui est une structure médicale. C'est le PSM, donc c'est Pinel. C'est un pédopsychiatre qui nous suit en réunion d'équipe une fois par mois ou quand c'est nécessaire, une fois toutes les deux semaines. Donc, il vient en fait en réunion une heure et demie pour nous renseigner sur nos élèves. Parce que nos élèves font des stages très réguliers dans des hôpitaux psychiatriques de deux semaines, d'un mois, si nécessaire. Et ça ne nous pose aucun problème. Et donc, il nous fait un retour de suivi des élèves. Donc, c'est aussi un secret médical partagé. Et ça repose sur donc, un lien de confiance, parce qu'il faut le vouloir. Nous, il faut vouloir entendre certaines choses. Et eux, ils souhaitent en fait, aussi nous délivrer certaines informations. Ça nous permet aussi d'être parfois formés à ce qu'est un psychotrauma, parce qu'on ne sait pas toujours. Un élève nous dit, moi j'ai telle pathologie, j'ai eu un psychotrauma. Également sur des traitements. Les élèves nous donnent toute une liste de traitements parfois, mais on n'y connaît pas en fait. Et puis parfois aussi des petites techniques de réancrage pour revenir au quotidien, au présent, quand un élève fait une très grosse crise, pour éviter de mobiliser toutes les semaines les services d'urgence, l'infirmerie. Où les infirmières, on n'a que deux infirmières pour trois établissements. Donc, on ne peut pas toujours les solliciter parce qu'elles ont également d'autres élèves dans les deux autres établissements. Donc, on a décidé collectivement de mieux s'entourer avec des partenaires extérieurs pour nous entourer les élèves. Et nous avons également d'autres alliés qui sont tout simplement le temps et l'espace. Donc le temps, c'est de dire aux élèves, et nous de faire un effort aussi sur ça, de leur donner davantage de temps, si pour nous, parfois, ça représente une perte de temps, de pouvoir se décentrer. Moi, je suis prof de lettres. Je ne fais pas que du français, je ne fais pas que des cours de lettres. Parfois, j'ai fait des décorations de Noël pendant 2 heures. Voilà, tout simplement, parce qu'à la demande des élèves, la salle était triste, et c'était vrai, et ils m'ont demandé pendant 2 heures de faire ce projet et ça leur a fait du bien. On est dans une phase novembre où là, il y a un effondrement de l'effectif. Étant donné que l'hiver arrive, ça ne joue pas en notre faveur. Donc, pour remobiliser un petit peu les classes, on a décidé tous de faire des projets dans notre classe, de redynamiser aussi l'espace. Et le bien-être au micro-lycée, on souhaite qu'il soit visible. Des productions d'élèves, on a les portraits des enseignants, on a les portraits des élèves, on a du mobilier non pas scolaire mais familier C'est-à-dire que tout ce qu'on ne veut pas forcément chez nous, on ne veut plus chez nous parce qu'on a changé de déco tous les 6 mois ou tous les ans, on ramène notre mobilier et on propose aux élèves, est-ce que ça vous intéresse, je ne sais pas, mais des lampes de bureau plutôt que des néons, parce que ça peut être un petit peu froid et aseptisé. On a des canapés, des poufs, des plaids, parce que souvent, le lundi matin, il n'y a pas de chauffage. Et les élèves, déjà, c'est compliqué de venir le lundi matin à 8 heures. Alors, en plus, sans chauffage, voilà, ça ne le fait pas du tout. De mettre une cafetière, une bouilloire en classe. En tout cas, essayer de rendre l'espace familier et qu'il y ait des objets aussi du quotidien. Donc, pour finir, je dirais qu'en fait... nous, au micro-lycée, on essaie de fabriquer du bien-être dans des gestes anodins. On n'a pas un programme révolutionnaire du tout, mais d'essayer d'entourer, d'accompagner, en fait, d'envelopper les élèves. Ça peut être une prise en charge avec une parole, un geste. Parfois, c'est rien, mais les élèves nous disent « Ah, mais en fait, parce que vous m'avez dit ça ce matin, je me sentais mieux, donc ma matinée, ça s'est bien passé ». Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Alors la transition, elle est un peu loin hein, maintenant, hein, mais elle était là et merci beaucoup pour ça, puisque Marie-Carmen Garcia nous a proposé un texte autour du yoga. Donc on retrouve la question du développement personnel, de tout ce qui a été dit tout à l'heure, et puis repose la question de la légitimité ou non de ça à l'école et la place dans le collectif finalement de ce genre de pratique.
Oui, bonsoir. Alors, sur la légitimité, moi, je vais me positionner en sociologue, comme mon collègue, c'est-à-dire que je ne vais pas dire si c'est légitime en soi ou non, mais la manière dont les pratiques de yoga sont introduites dans des établissements scolaires, il faut se situer dans une perspective plus large, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle le yoga, alors le yoga n'existe pas, mais en tant que tel, puisqu'il y a plusieurs définitions, différentes pratiques, mais grossièrement, on est sur des pratiques posturales occidentales, avec une réappropriation d'une pratique asiatique, et c'est ce yoga-là qui entre à l'école, par des voies qui sont diverses et variées. Notamment, il y a un réseau qui s'appelle le RI, le réseau yoga à l'école, qui a été fondé il y a une vingtaine d'années. Et ça rentre beaucoup par cette association-là, qui est reconnue par l'Éducation nationale, dont les sources ne sont pas forcément le yoga occidentalisé, tel que peut-être certains ou certaines le connaissent, ce qu'on appelle le Hatha Yoga qu'on peut faire en MJC ou dans des studios de yoga. Et donc, le yoga, il rentre par des individus. Il rentre par des enseignants, des enseignantes. Alors, nous, on a fait le travail d'enquête avec Pierre Bataille et Mélie Fraisse, donc, qui sont deux collègues sociologues également. On ne travaille pas que sur le yoga à l'école. On travaille globalement sur la diffusion du yoga en France. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il rentre, il rentre pas du tout de manière institutionnelle, mais c'est pas, il n'y a pas que l'école où il rentre pas comme ça, alors qu'il est très présent. C'est aussi le cas dans des espaces médicaux éducatifs, c'est aussi le cas à l'hôpital, c'est aussi le cas chez le kiné, c'est aussi le cas. En fait, le yoga rentre dans de très nombreux espaces institutionnels, voire tous, donc de l'État, mais pas, l'État ne le reconnaît pas. Et ça, en fait, nous, le fer de lance de notre travail en global, il est sur ce processus de non-légitimation qui est assez, intéressant quand on travaille sur les processus de légitimation. Moi, j'ai travaillé sur d'autres, en fait, de pratiques. Bon, à une époque, j'ai travaillé sur la danse hip-hop qui rentrait à l'école et elle est rentrée par la petite porte, comme le yoga, c'est-à-dire des profs passionnés qui sont intéressés, qui pensent que ça va être bien pour diverses raisons. Je pourrais peut-être y revenir tout à l'heure. Mais au fil du temps, en fait, et assez rapidement, en général, l'État français, il a des particularités, c'est qu'il se saisit des pratiques indigènes, comme ça, diffusent les structures, les scolarisent, et à la fin, bah, on a un hip-hop qui est un hip-hop scolaire, on a des danses de salon qui sont des danses. Bon, je parle par rapport à l'EPS. Et ben, le yoga, ça se passe pas. Alors, le yoga continue. Alors, les ministères, c'est le ministère des Sports qui s'en saisit là dernièrement, là aujourd'hui, en ce moment, il essaye de nouveau d'institutionnaliser, et c'est lié en fait à la pratique elle-même du yoga qui, en fait, elle pose un certain petit peu de problème. Il n'y a pas que le bien-être, il y a la question de la spiritualité dans le yoga. Alors souvent, on n'en parle pas dans le milieu scolaire parce qu'on ne veut pas en parler, parce qu'on ne veut pas le voir, parce qu'on ne le dit pas aussi. Alors, il ne s'agit pas ici de faire des révélations extraordinaires, mais les gens qui introduisent le yoga à l'école par la petite porte, donc ce qu'on appelle par le bas, ce n'est pas institutionnalisé, c'est à des moments. Voilà, des moments pour. Enfin, ça peut être par des postures ou par la respiration. Alors, si vous connaissez un peu la pratique, voilà. Et en fait, déjà là, il y a un rapport au corps qui est spécifique. Et l'idée globale du yoga, alors que ce soit à l'école ou ailleurs, c'est que par un travail corporel, ça peut aller de la respiration, mais par certaines postures. Alors pour les élèves, il n'y a pas de posture acrobatique, hein, c'est éventuellement un petit peu les jambes croisées. C'est qu'on va canaliser, entre guillemets, un certain nombre d'énergie, et notamment ce qui est appelé dans le monde du yoga le mental. Alors ne me demandez pas ce qu'est le mental, hein, ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas l'inconscient, ce n'est pas le conscient, c'est de la spiritualité en fait, hein, derrière, c'est-à-dire bien ou pas bien, mais en tout cas c'est l'idée que par le corps, on va pouvoir travailler. Alors au niveau individuel, il était question ici de la question collective, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que chacun et chacune soit en mesure de, entre guillemets, se gérer, et notamment à l'école, de gérer ses émotions. Alors, gérer ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire ne pas perturber la classe, pour aller vite, être en mesure de se concentrer, d'être bien avec les autres, avec toutes les notions de bienveillance, de soin de soi, de soin d'autrui, etc., qui sont des valeurs sans doute hyper positives, très bien, qui ne sont pas forcément celles du yoga d'origine, hein, mais en tout cas, c'est perçu comme ça. Et donc, est-ce qu'on est dans une pratique de bien-être? Oui, alors là, complètement, mais de bien-être qui va être le bien-être de l'élève, mais avec une perspective de cadrage et d'organisation de la classe, en fait. Alors, est-ce que ça donne des... Alors, il rentre dans tous les niveaux scolaires. Alors, maternelle, je ne sais pas, mais en primaire... en crèche, on a ça, ouais. Voilà. Collège, oui. Alors, même en EPS, maintenant, on a de la pratique de... Donc, l'EPS. Moi, je suis en STAPS, je suis sociologue du sport... Enfin, du corps et du sport, donc en EPS, en collège, en lycée, à l'université. À l'université, c'est très très curieux parce qu'à l'université, bon, alors moi je suis en plein dedans, dans les STAPS, il y a du yoga, ça pose plein de problèmes parce qu'il y a cette question de la laïcité. Alors on a, voilà, c'est pas la question du bien-être, mais au niveau institutionnel, vous me posez la question. Ben, même si on a des gens qui font rentrer le yoga à l'école, n'en parlent pas, l'institution et l'État, ils ont quand même une vision globale des choses. Et d'ailleurs, et juste finis là-dessus, dans des écoles privées, donc catholiques, c'est interdit. Et voilà, le bien-être, il doit sans doute passer par autre chose à ce moment-là.
Merci beaucoup.